y a ce merveilleux mot de don, il est doué. Mais celui qui a là a une responsabilité effrayante, parce que s'il a le don extraordinaire, s'il a une technique extraordinaire, mais qu'il n'a pas un caractère, tout est perdu. Je suis séparé de deux élèves parce que je savais, je ne voulais pas coopérer à ça. Très doué, très intelligent, mais pas de caractère. Eh bien, sans caractère, on ne peut attendre rien de personne. Nous avons à faire très, très attention. Vous allez être des professeurs, vous allez être des exécutants. Si vous êtes exécutant et que vous jouez en toute honnêteté, pas pour vous exprimer vous-même, mais pour exprimer l'œuvre, pas pour essayer de dire ma sonate de Beethoven, mon scherzo de Chopin, mais le scherzo, pas même de Chopin. Ce scherzo, il a été donné à Chopin d'écrire un morceau qui n'a plus besoin de Chopin pour être un chef-d'œuvre. Alors, c'est tellement beau, il n'a plus besoin de l'exécutant, il n'a plus besoin de l'auditeur, il n'a plus besoin de rien. Il est dans l'air comme resplendissant de lumière. Et puis, vous le regardez ou vous ne le regardez pas.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Mademoiselle Nadia Boulanger, que l'on entend ici dans le film que lui a consacré Bruno Mont-Saint-Jean en 1977, était une professeure exceptionnelle qui a formé des dizaines de pianistes virtuoses. Ce qu'elle dit là à ses élèves à propos du don qui ne vaudrait pas grand-chose sans d'autres qualités humaines qu'elle nomme « caractère » est bien sûr une vérité universelle. Mais cela nous fait mieux comprendre ce qui, parfois, nous bouleverse chez certains artistes, alors que d'autres, dont la parfaite maîtrise est pourtant évidente, vont nous laisser totalement froid. Et c'est en écoutant parler de leur art, Arthur Rubinstein, Wilhelm Kempff ou Alfred Cortot, que l'on entrevoit ce que recouvre ce terme un peu vague de « caractère ». Idil Biret a travaillé avec ces trois hommes après avoir été l'élève de Nadia Boulanger, séduite par cet enfant prodige arrivé à Paris en 1949, à l'âge de 7 ans. Et douée, elle l'était, cette petite fille, qui, élevée dans une famille de musiciens à Ankara, a bénéficié d'une loi spécialement adoptée pour lui permettre de sortir de Turquie afin d'aller se former à Paris. Tous les prix, elle les a eus, tous les succès, elle les a connus, jouant le plus souvent de mémoire dans le monde entier, mais revenant toujours à Paris, cette ville où elle a choisi d'habiter. Elle célèbre ces jours-ci ses 70 années de carrière avec un coffret de 130 CD édités chez Naxos Iba, regroupant tous ses enregistrements en studio et en donnant un unique concert le 16 avril à la salle Gaveau dans le cadre des concerts de Monsieur Croche. Bonsoir Idil Biret.
Bonsoir.
Alors, vous êtes arrivée à Paris il y a 70 années, c'était en 1949. Écoutez.
Idil, maintenant, je voudrais que vous disiez quelques petites choses, quelques petits mots pour vos compatriotes, oui, pour les Turcs, que vous disiez aussi quelque chose à votre grand-mère. Alors, si vous voulez le dire en français, dites-le en français, ou bien si vous aimez mieux, dites-le en turc.
Vous gagnez du nasoufou. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Burada çalışıyorum ben. 10 aydır ben buradayım. Havalar çok güzel. İstanbul'da zannederim kar yağıyormuş. Tabii İstanbul'da kar yağıyor ama burada da kar başlayacak. Zannederim birkaç ay sonra.
Et maintenant, je voudrais que vous disiez quelque chose en français. Alors, est-ce que vous êtes par exemple content d'être maintenant à Paris?
Oui, très content.
Et vous travaillez beaucoup?
Non.
Pas trop?
Pas trop, mais une heure par jour.
Et vous travaillez avec des grands musiciens ici?
Oui.
Vous travaillez, je crois, avec Madame Nadia Boulanger.
Oui, Mademoiselle Nadia Boulanger.
C'est cela.
Mademoiselle Boy, Mademoiselle Nicolas, Mademoiselle Lyonnais, je pas.
Et vous avez l'intention de faire beaucoup de progrès et ensuite de donner beaucoup de concerts?
J'espère.
Idylle Biret, c'est très étonnant d'entendre cette voix de toute petite fille, de vous voir là ce soir en face de moi. Au fait, vous disiez déjà quel était le programme, faire des progrès, donner des concerts. 70 ans après, quel regard portez-vous sur la petite fille que vous étiez et qui rentrait dans un univers qu'elle ne soupçonnait peut-être pas, celui de la vie réglée, obligée d'une virtuose?
Vous savez, curieusement, je pense qu'au fond, on ne change pas tellement. Lorsque je m'entends parler, au fond, j'ai l'impression qu'il s'agit de hier. Enfin, que c'est une conversation que j'ai eue hier. Oui, c'est, je ne m'attendais absolument à rien du tout. Ce que j'aimais, c'est de faire de la musique. Donc, j'aimais improviser, j'aimais jouer, j'aimais écouter. Mais je ne pensais absolument pas du tout à faire, disons, une carrière dans ce sens-là.
Mais aussi, Idylle Biret, c'était pour une enfant absolument impensable d'imaginer aussi de consacrer sa vie, de travailler autant. Parce que là, on vous entend dire, je travaille une heure par jour, mais en fait, c'est de travailler tout le temps. Vous êtes rentré dans un formatage. Il fallait faire du piano, écouter les professeurs, puis ensuite donner les concerts. C'est une vie qui vous satisfait sur le plan artistique, mais c'est une vie dure pour une enfant.
Ah, vous savez, je dois vous dire que dès que j'ai commencé à travailler avec Nadia Boulanger, je n'ai plus donné de concert. Elle a pensé qu'il fallait que j'arrête de jouer en public. Je n'avais au fond que 2 concerts par an. Un de ces concerts se passait au Cercle Interallié, dont elle était la directrice artistique. C'est-à-dire qu'elle organisait des concerts. Et là, j'ai joué chaque année. Et aussi l'été à Fontainebleau, au conservatoire américain, à la salle du jeu de pommes. Mais c'était les 2 seuls concerts que j'avais. Autrement, je travaillais tout le temps. Donc je n'ai pas eu une vie de concertiste à cette époque.
Et pourtant, dès 1953, c'est avec Wilhelm Kempff que vous avez donné un concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Oui. Ça, oui. C'était quand même un événement. Wilhelm Kempff, ça a été très important. Presque, on peut dire autant ou peut-être plus que Nadia Boulanger.
J'avais rencontré Wilhelm Kempff même avant de rencontrer Nadia Boulanger à Paris. Et j'avais joué pour lui et il s'était intéressé. Et chaque fois qu'il venait à Paris, il voulait m'entendre et voir ce que je faisais. Et ensuite, j'ai rencontré plusieurs mois après Nadia Boulanger parce que elle ne voulait pas vraiment avoir un enfant prodige comme élève. Ça ne l'intéressait pas du tout. Mais comme elle avait à ce moment-là un élève turc compositeur, Nevit Kodal, qui a, je crois, assez fortement insisté pour qu'elle me reçoive. Un jour, j'ai été chez elle, enfin, quelques mois après, et j'étais absolument sous le charme parce que elle avait un chat, premièrement, qui s'appelait Tacha. Et la manière dont elle s'est comportée, elle m'a offert du chocolat, tout ce qu'il fallait pour vraiment séduire une enfant de cet âge. Et alors j'ai commencé, elle a accepté de me faire travailler. Alors à partir de là, ça a été le régime absolu.
Et en 1953, la rencontre, oui, avec Wilhelm Kempff, on va écouter Wilhelm Kempff parlant de sa rencontre avec Beethoven.
Le premier choc musical, c'était dans les jours de ma première jeunesse. J'ai trouvé mon père, il était comme mon grand-père organiste, lisant dans un grand livre. J'ai demandé, qu'est-ce que tu fais, mon père? Je lis de la musique, Wilhelm. Peux-je lire avec toi? Je regrette, mon fils, tu es encore trop petit. Mais qui a pensé cette musique? J'ai attendu que mon père réponde « le bon Dieu ». Mais il a répondu « Beethoven ». Cet nom, prononcé par mon père avec une expression presque mystique, me fit pleurer. Et c'était le choc musical. Grâce au bon Dieu, j'ai reçu un don de faire l'art de composition. Ma force de compositeur est peut-être suffisante pour recréer les œuvres que j'interprète. Je dois faire oublier la technique qui doit être dominée au profit de la récréation de l'œuvre. Notre époque, je crois, a oublié que l'âme divine est à la base de toute grande inspiration. Et pour moi, d'être pianiste n'est pas une profession, c'est une mission.
Idil Biret, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire votre grand ami William Kempff, c'est une mission de rendre la musique au public?
Oui, et ça, je dois dire que Wilhelm Kempff avait ce don d'une manière extraordinaire. Je me souviens de concert à la salle Pleyel, où la salle Archicamp était subjuguée par cette manière de transmettre la musique, le don qu'il faisait.
Qu'est-ce qu'il vous a appris? Si vous deviez dire en un mot quelque chose d'indispensable que William Kempff vous a transmis et dont vous vous servez tout le temps, que vous n'oubliez jamais.
Vous savez, je vais vous dire, au fond, l'enseignement de Nadia Boulanger et de Wilhelm Kempff et plus tard de Alfred Cortot se recoupaient d'une certaine manière. C'est la totale honnêteté absolue de ce que vous faites. Et c'est la manière d'être, la manière de d'aborder une partition, mais une honnêteté absolue.
On va vous écouter, Idil Biret, dans un morceau de Bach. C'est une transcription de William Kempff de la sonate BWV 1031. Idil Biret, c'est le 16 avril à la salle Gaveau. Vous allez commencer votre concert anniversaire par du Bach. On sait que pour beaucoup de pianistes, Bach est comme une hygiène mentale. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que le matin, avant même de boire un thé ou un café, jouer du Bach était quelque chose qui vous remettait d'aplomb, tout droit. Quelle place tient Bach dans votre vie de pianiste?
Bach a été le premier compositeur pour lequel j'ai senti une affinité. Lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 10 ans, 3 ans et demi, 4 ans, c'était la seule musique que dont je me sentais proche. Et ça a continué toujours durant toutes ces années. Et je comprends très bien pourquoi on est envie, disons, de jouer du Bach le matin en se levant. Et je crois que, pas seulement les pianistes, mais des très grands artistes comme Pablo Casals le faisaient chaque matin. Il y a une sorte de sécurité, disons, dans la musique de Bach. Il y a toutes sortes d'émotions qui passent, mais il y a tout de même, au fond de la musique, cette sécurité qui vous remet d'aplomb.
Et pourtant, on sait, Idil Biret, que Schumann a été et toujours votre compositeur de prédilection, Schumann comme Chopin. Alors, dans le registre des rencontres et des belles rencontres des gens avec qui vous avez travaillé, oui. Vous avez dit qu'il y a Alfred Cortot. On va l'écouter. C'est un extrait d'une leçon qu'il donne en 1953 autour d'une scène d'enfant de Schumann.
Il me semble que le dernier morceau, le poète parle, c'est là le titre que Schumann a lui-même ajouté à cette page immortelle, devrait être transposé sur un plan de rêverie plus intime, n'est-ce pas? Pas seulement la belle sonorité, mais un sentiment plus rêveur. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer. Voulez-vous me permettre de prendre votre place? Les deux phrases, ce sont deux éléments différents de la même condition musicale. Et ici, comme une sorte d'interrogation, et à nouveau une autre, tendrement, interroger l'avenir.
Idil Biret, je voyais sourire en écoutant cette archive déjà très ancienne. Vous avez bénéficié de l'enseignement d'Alfred Cortot entre 1959 et 1961. Mmh. Et au fond, la question qu'on a envie de poser, parce que quand il s'agit de virtuose, bien sûr, la technique est là, l'enseignement, la rigueur. Qu'est-ce que c'est qu'un bon professeur, au fond? Quelle est la qualité indispensable pour bénéficier d'un enseignement mieux que parfait?
Ah, c'est un peu difficile à expliquer. Mais si je prends l'exemple des leçons que j'ai eues avec Cortot, qui se passaient chaque mois sur la scène de l'école normale de musique. Au fond, il n'expliquait pas tellement. Il me dit non, recommencez. Non, ça, ce n'était pas assez bien. Non, la main gauche. Mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, il était d'une sévérité. Je ne peux pas vous dire. C'est intimidant. Mais ce qui était extraordinaire, c'est lorsque lui-même se mettait au piano. Et alors là, il y avait cette sonorité. Nous venons d'entendre toutes les notes dures. La sonorité ne s'éteint pas. C'est extraordinaire. Mais j'ai énormément profité de ces leçons parce que j'avais une fois joué une suite de Bach. Et quand on me dit, mais écoutez, n'oubliez pas que ce sont des suites, ce sont des danses. Il faudrait que vous alliez voir Serge Liffard de ma part et que vous appreniez ces danses pour les sentir vraiment bien physiquement. Et ne pas les jouer comme... on a malheureusement tendance à jouer du Bach d'une manière un petit peu, sans âme, si on peut dire. Mais là, si vous sentez physiquement le rythme en vous-même, vous jouerez cela d'une autre manière. Et il avait tout à fait raison. Et je crois que c'est une manière très moderne d'aborder les choses aussi.
Alors, on a parlé de Schumann, mais bien sûr, on ne pouvait pas vous recevoir, Idil Biret, sans vous écouter. Dans Chopin, c'est une étude, l'enregistrement est tiré, bien sûr, de cette compilation de 130 CD qui vient de paraître chez Naxos Iba. Elle a été enregistrée en 1992.
Arthur Rubinstein, vous jouez toujours de mémoire.
Oui, j'ai encore une excellente mémoire, oui. Je trouve que ça donne une certaine liberté, n'est-ce pas? Enfin, si on suit les pages d'une musique, malgré soi, on est un peu esclave des marques, n'est-ce pas, des dynamiques, crescendo, diminuendo. Il ne faut pas le faire, n'est-ce pas? Nous sommes indépendants, nous sommes libres, en somme. Vous savez, j'ai été un peu jaloux des compositeurs, n'est-ce pas? Les compositeurs, en général, nous méprisent, nous autres, interprètes. Mais nous autres, les interprètes, nous sommes aussi nés avec un grand talent. On ne peut pas nier cela. Justement, moi, à 4 ans, j'étais musicien. Donc, j'ai cherché la réponse à tout cela. On nous pose une sonate de Beethoven, n'est-ce pas, à la jouer, comme on pose à un peintre, une belle femme à peindre, ou un paysage à peindre. Si on demande les mêmes portées de cette charmante dame à 6 peintres, même les plus grands, vous savez, Velázquez, Rembrandt, Titien, Goya, elle sera toujours différente, n'est-ce pas? Eh bien, la sonate jouée par 6 pianistes de grand talent sera toujours différente. Parce que nous voyons cette chose-là, cette chose créée différemment, avec d'autres yeux, avec les yeux de notre talent, vous comprenez? Avec notre talent propre.
Idil Biret, c'était en 1969, Arthur Rubinstein répondait aux questions de Jacques Chancel, et au fond, il dit quelque chose qui doit vous concerner aussi beaucoup, il dit, jouer de mémoire, c'est pas seulement une question de bonne mémoire, jouer de mémoire pour être, au fond, le créateur de l'interprétation que l'on donne. C'est ce que vous faites, vous jouez la plupart du temps de mémoire.
Oui, oui. Mais, vous savez, je deviens de plus en plus difficile, de plus en plus exigeante. Il ne s'agit plus maintenant d'apprendre ou de savoir les notes par cœur, mais il faut connaître les accents, les phrasés, tout cela doit être mémorisé. Et vous devez suivre tout cela à la lettre, mais ne pas seulement en rester là. C'est-à-dire se dégager aussi de... Enfin, je n'ose pas dire le mot inspiration, mais il y a un peu de ça, certainement. Il faut tout de même savoir où là où se trouve le crescendo et la raison pour laquelle... Enfin, il faut avoir fait tout un travail dessus. Rachmaninov, que j'admire énormément comme musicien, avait dit, il y a toujours le point. Et ce point est très, très important. Si on rate le point, il disait souvent, j'ai raté le point, j'ai aussi raté mon concert. Donc le point, c'est le point de tension.
Mais en même temps, Edith Biret, c'est très intéressant ce que dit Rubinstein, parce que pour les béotiens, pour les gens qui aiment écouter la musique mais qui ne la pratiquent pas, c'est toujours intéressant de se demander où se situe justement la liberté de l'artiste, parce que il y a ce que le compositeur a voulu et qu'il indique très précisément, et puis Rubinstein dit, mais en même temps, si on demande l'interprétation de 6 artistes d'un même morceau, on aura 6 morceaux différents, au fond, qu'on pourrait reconnaître. On peut reconnaître souvent le toucher des pianistes.
Absolument.
Donc il y a quand même cette part indéfinissable de la liberté, du don, du talent.
Oui, regardez, on joue 2 notes d'une œuvre, et on reconnaît tout de suite le jeu de Quarto, immédiatement. Le jeu de Kempf est reconnaissable immédiatement aussi. Tous les grands pianistes, en fait, ont quelque chose de très particulier, ce qui tient à premièrement, la manière dont ils abordent le piano, la technique qu'ils utilisent, enfin, tout ça, la respiration, tout ça est très, très important. Mais, maintenant, pour répondre à la question réellement, je dois un peu réfléchir.
Bon, alors on va réfléchir en vous écoutant dans Brahms. C'est un extrait de la symphonie numéro 3 et c'est une transcription d'Idil Biret pour Idil Biret.
Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Idil Birette, comme votre grand ami William Kempf, vous adorez faire des transcriptions. C'est oui, quelque chose qui vous plaît infiniment.
Vous savez, c'est parce que lorsque j'étais enfant, lorsque j'entendais une œuvre à la radio, à la maison, enfin n'importe où, je faisais immédiatement une transcription avec les moyens que j'avais à l'époque, bien sûr, au piano. Donc, ça a continué. Et puis, par exemple, un exemple, c'est les symphonies de Brahms. Lorsque je suis arrivée à Paris, j'ai découvert ces symphonies et j'étais absolument enthousiasmée et j'avais demandé à mes parents d'acheter les disques de ces symphonies. Et en les écoutant, j'en faisais des versions pour le piano. Et plus tard, je me suis dit, pourquoi je n'écrirais pas ce que les transcriptions. Et j'ai fait deux transcriptions de ces symphonies, donc la troisième et la quatrième symphonie. La quatrième symphonie sera éditée en Allemagne très bientôt.
En fait, c'est assez extraordinaire, Edith Birette, parce que dès votre plus jeune âge, dès 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, vous aviez l'oreille absolue. Et donc, vous retranscriviez sur le piano tout ce que vous entendiez, parce que vous le reteniez instantanément.
Oui.
C'est une grande force.
C'était une manière, pour moi, de pouvoir réentendre ce que j'avais tellement aimé. Et ça a continué. Et actuellement, je me demande si je vais simplement me borner à faire des transcriptions, parce que j'ai à un moment donné aussi écrit de la musique, mais je n'ai jamais trouvé que cela fût suffisamment intéressant, si vous voulez, pour être joué ou bien. Mais enfin, je pense tout de même, me dirais, maman, tu t'y prends un petit peu tard. Mais pour moi, il n'y a pas de limite, ni limite de temps, ni limite d'âge. Et je trouve que c'est dommage de toujours compartimenter.
Mais justement, Edil Birette, à l'occasion de ce 70e anniversaire et de cette réédition de tous vos enregistrements en studio, il y a des enregistrements qui datent de 49 jusqu'à nos jours. Quand vous les réécoutez, est-ce que vous sentez que vous pourriez le rejouer, ces œuvres, de la même manière, ou est-ce que vous diriez que votre jeu a évolué et que certaines pièces, vous ne les rejoueriez pas de la même manière?
Si, mais... Je trouve que les enregistrements sont comme des photos d'une certaine époque. Et les choses que vous faisiez à cette époque s'accordaient très bien à votre état d'esprit de l'époque, de l'enregistrement. Donc, il ne faut pas peut-être... Et au fond, je ne m'écoute jamais. C'est-à-dire, je n'écoute jamais ce que j'ai enregistré ou bien ce que j'ai joué.
Pourquoi ?
Parfois, je me dis, tiens, s'il m'arrive d'entendre un disque que j'avais totalement oublié, je dis, je ne pensais pas que ce soit... c'est à peu près convenable. Ou bien je me dis, mais quelle horreur ! Voilà, parce que... on progresse, on espère qu'on progresse, mais on a une autre manière d'envisager les choses avec le temps.
Alors, au fil des années, Edil Birette, vous avez eu une carrière internationale incroyable. Vous faisiez à peu près une soixantaine de concerts par an. Est-ce que vous ralentissez maintenant, ou est-ce que pour vous, quand vous dites il faut continuer, vous continuez à répondre aux sollicitations autant?
Je laisse venir les choses. Et s'il y a des concerts qui m'intéressent, je suis toujours prête à les faire. Ou je suis prête à apprendre des nouvelles œuvres, ce que je fais aussi. Je crois qu'il ne faut pas limiter. Si vous sentez que vous avez envie de faire certaines choses, il faut les faire.
Et prendre des élèves, vous le faites volontiers, vous y songez ou pas du tout?
Je fais des
master
cours d'interprétation. Mais les élèves, c'est une responsabilité extraordinaire. C'est vraiment une sorte de vocation. Et je ne sais pas, si vous-même vous commencez à penser pendant que vous écoutez quelqu'un jouer, à ce que vous allez faire le lendemain, le surlendemain, à certains problèmes qui ne sont pas complètement encore nets dans votre esprit. Alors là, je crois que on triche d'une certaine manière. Et d'être professeur, c'est d'être complètement dévoué à ce que vous faites.
En attendant, Idil Biret, vous êtes dévoué à votre public, public parisien qui viendra vous entendre le 16 avril à la salle Gaveau. Et puis, il y a ce coffret de 130 CD, c'est phénoménal, de tous vos enregistrements en studio de 1949 à 2017. Et ça vient de paraître chez Naxos IBA. On va se quitter en vous écoutant, Idil Biret. Vous parliez tout à l'heure de votre amour pour Rachmaninov. On va vous écouter dans un dernier morceau, c'est une variation. Et je vous remercie d'être venu ce soir nous en parler.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.